France Inter, le 18-20.
Il y aura d'autres Aquarius, il y a déjà d'autres Aquarius. Sea-Watch 3 a regagné Malte pour escale. Les dernières positions connues du Sea-Fetch, je crois, et du Lifeline sont toujours au large des côtes libyennes. Peu importe, il y en aura d'autres. Et pendant que les tribulations de l'Aquarius, justement, retenaient toute notre attention, vous noterez que des migrants ont bien débarqué dans le port de Catane. Il y aura d'autres Aquarius, il y en a déjà, mais alors quoi? Doit-on les accueillir, ces bateaux, ces femmes, ces hommes chez nous? Peut-on les accueillir, ces bateaux, ces femmes et ces hommes chez nous, sans risquer le fameux appel d'air qui sert de chiffon rouge, sans risquer une situation politiquement intenable? Et c'est peut-être plutôt là qu'est le souci. Peut-on accueillir ces femmes et ces hommes, les structures, l'intendance? Est-ce qu'on a réellement tout ça? Essayons d'y réfléchir calmement. Si ce n'est pas une question d'argent, alors c'est une question de quoi? La question qui suit, c'est: peut-on discuter en France de ces sujets sans nous enfoncer dans un clivage irrémédiable? Que faut-il lire de l'opinion qui approuve Emmanuel Macron quand il dit non à l'Aquarius, mais montre aussi un clivage de génération sur cette question, sans parler du clivage européen dont nous savons déjà que nous nous sortirons très difficilement les 28 et 29 juin prochains, même si la solution, et c'est ce que tout le monde dit, est sûrement là dans le collectif. Le tout avec chez nous au Sénat en ce moment même la loi asile et immigration qui passe donc par la deuxième chambre à partir d'aujourd'hui, qui veut faire plus sur les expulsions mais aussi plus sur l'intégration. Bref, qu'est-ce qu'on fait avec le prochain Aquarius et avec les suivants? On en parle ensemble et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
C'est vous qui commencez, Elisabeth. Soyez la bienvenue dans le téléphone sonne et bonsoir.
Merci et bonsoir à vous et à tout le monde. Voilà, donc déjà, pour moi, l'histoire de l'Aquarius, ça m'a extrêmement choquée. C'est beaucoup trop facile de demander toujours aux trois mêmes pays d'accueillir tous ces drames, enfin toutes ces personnes qui vivent des drames, et que nous, la France, le bateau va passer devant chez nous, mais nous, on l'accueille pas. C'est de la non-assistance à personne en danger total. C'est lamentable. Ensuite, moi, cet après-midi, à Nantes, il y a eu 150 exilés qui ont été virés du squat où ils étaient par 100 CRS. Donc bientôt, il va y avoir l'équité, c'est bien. 100 CRS pour 150 réfugiés, c'est très bien. Et après, je comprends évidemment le problème de l'accueil, parce que justement, ces personnes-là qui sont sur notre pays, ben là, ce soir, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, ces 150 personnes et familles. Donc effectivement, peut-être s'inspirer d'autres pays, et puis y réfléchir vraiment, parce que sinon ça veut dire qu'on n'assistera jamais, jamais des personnes qui sont en danger de mort.
Mais s'inspirer d'autres pays, Elisabeth, s'inspirer de qui par exemple?
Alors je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, je crois que c'est en Suède, hein. Ou même en Allemagne d'ailleurs, hein. Où ils ont construit assez vite des structures, des habitations. Même si c'est des... Enfin, on s'en fiche si c'est des mobilhomes ou si c'est... Enfin, on s'en fiche. Et puis, systématiquement, on leur apprend la langue du pays et en même temps, on les forme. Donc, évidemment, il y en a beaucoup moins... Enfin, il y a beaucoup moins de migrants qu'en Italie, en Espagne, en Grèce. Mais par contre, il y en a certainement plus qu'en France.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Elisabeth, et pour discuter ensemble jusqu'à 20h sur France Inter. Pascal Brice est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Bonsoir Philippe de Botton.
Bonsoir.
Le président de Médecins du Monde. Je voudrais qu'on rebondisse, Pascal Brice, sur la question d'Elisabeth. Alors oui, c'est vrai que Suédois et Allemands ont accueilli plus de migrants que nous l'avons fait. Est-ce qu'on est aussi dans une espèce d'image où il y a une situation idyllique qui est celle de ces pays-là et une situation désastreuse qui est celle des nôtres?
Non, hélas, on le voit bien à l'évolution de la politique de ces pays-là. Vous savez, moi, je crois hélas que chacun est de plus en plus empreint de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. À l'OFPRA, cela dure depuis un moment, Médecins du Monde aussi certainement, parce que ces récits de ces exils terribles, nous les connaissons de longue date. Mais je constate que le poison progresse un peu partout en Europe, à la fois pour la cohésion de nos sociétés, pour l'unité de l'Europe, et que les migrants, les réfugiés, sont devenus bien, malgré eux, les catalyseurs de cette crise. Et je ne connais pas d'autres solutions, et à la fois, c'est compliqué, mais en même temps, depuis 5 ans, la tête de l'OFPRA, je vois ce qui peut avancer. Je ne connais pas d'autre réponse que le respect absolu des valeurs et du droit d'asile, parce que ça, c'est absolument fondamental. Mais aussi la capacité à organiser et maîtriser les choses. Parce que je le vois bien, à chaque fois que nous sommes au plan national et au plan européen et au plan international, en situation de faire respecter le droit d'asile. Mmh. Sans doute aussi, ça c'est la vocation, le rôle de l'OFPRA, peut-être aussi d'aller au-delà dans la réflexion sur ce que peut être une protection humanitaire pour des personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais qui par exemple à l'avenir relèveraient des déplacements climatiques. Mmh. La capacité à faire respecter cela absolument et à organiser et maîtriser les choses. Alors là, les choses se passent toujours très bien. Et on sort de ces instrumentalisations de toutes sortes, dont le droit d'asile, les migrants, les réfugiés sont les victimes. Donc j'en appelle notamment au niveau européen, c'est ce qui se déroule aujourd'hui, à ce que l'on puisse sortir d'options qui me paraissent dangereuses. La première, c'est que se poursuivent ces replis nationaux, chacun renvoie des bateaux avec ses personnes. Mmh. J'ai rencontré ce matin les passagers de l'Aquarius à Valence. Ils m'ont dit ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est évidemment la course à l'abîme que de poursuivre ces replis nationaux. Je m'inquiète aussi d'une tentation qui est l'Europe forteresse, c'est-à-dire de dire on va mettre un glacis et puis on va gérer l'asile un peu partout autour de l'Europe. Donc la seule solution que je vois est la capacité et le sursaut de l'Europe à organiser les choses dans le respect du droit d'asile, à la fois dans les pays d'origine, dans les pays de transit et sur le territoire européen, de manière à ce que nous puissions exercer pleinement ce droit et puis au-delà, prendre en compte des situations de détresse humanitaire.
Mais alors attendez, et vous reviendrez Pascal Brice, bien sûr, Philippe de Botton, mais c'est un peu quand même gérer la situation en dehors des pays d'Europe, ce qui se profile en tout cas, ce qui s'est dit en partie dans cette réunion entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. On parle de mise en place dans des pays tiers de plateformes régionales de gestion des réfugiés et des migrants, selon le projet des déclarations, etc. etc. Donc ça fait c'est le retour des hotspots, en fait. En particulier, d'ailleurs, là, on parlait de certains pays d'Afrique du Nord, pourquoi pas de la Tunisie, on parle aussi de l'Albanie. Philippe de Botton, qu'est-ce que vous pensez de cette solution-là? Est-ce que c'est une manière de rejeter à nos frontières?
Non, je vais répondre à cette question de l'externalisation des frontières, qui est absolument, qui est quelque chose qui est un serpent de mer qui revient depuis des années. Bon, je voudrais quand même répondre à votre question. Oui, nous devons accueillir tous les Aquarius. Mm-hmm. C'est évident. Oui, c'est important. Je rappelle quand même le silence assourdissant de ce gouvernement pendant 2 jours, le cynisme et l'hypocrisie des autorités françaises par rapport à ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que ce bateau est passé à 7 kilomètres du sud de la Corse. Je veux dire, pour qui connaît cet endroit, c'est absolument lamentable.
D'accord, ce qui s'était porté volontaire, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, par contre, je voudrais quand même l'illusion, je voudrais, pour répondre à l'auditrice, on peut très bien, enfin, il y a une illusion d'une invasion. Enfin, bon, les politiques parlent d'invasion, de raz-de-marée, etc. Il faut savoir qu'il y a 62 millions de réfugiés dans le monde, qu'en 2015, l'Europe a accueilli 1 200 000, en 2016, 400 000 réfugiés, et en 2017, moins de 200 000. Alors, 200 000 réfugiés sur une population européenne de 700 millions, je ne sais pas où est l'invasion. Donc, on peut très bien accueillir en France. Il suffit d'avoir une volonté et un courage politique que, malheureusement, la France et l'Europe, bien sûr, n'a pas, sauf quelques exceptions. Et enfin, pour répondre à votre question sur l'externalisation des frontières, c'est absolument catastrophique. Enfin, la Libye, je sais que l'Italie a fait un accord avec la Libye il y a maintenant 2 ans. Externaliser, enfin, il faut se rendre compte que nous n'aurons pas de chancellerie, nous, en Libye, pour des raisons de sécurité, et on voudrait mettre un centre de rétention en Libye avec l'insécurité qu'il y a. Enfin, c'est absolument, c'est quasiment lamentable, et je dirais même abject.
La Libye, c'est une chose, Pascal Brice, si on décidait de faire des centres de ce genre dans des pays, formuler ça, plus facile, plus sûr, on parlait de la Tunisie par exemple, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est plus satisfaisant?
Tout dépend de quoi l'on parle. Non. Et le président de la République a naturellement veillé à être précis sur ce point. S'il s'agit d'aller faire instruire les demandes d'asile exclusivement hors du territoire de l'Europe, alors c'est non. C'est non, parce que c'est tout simplement la négation de ce que nous sommes depuis toujours. S'il s'agit, comme l'OFPRA le fait depuis 2014, de conduire des missions d'instruction au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Turquie pour des réfugiés syriens, depuis un an au Niger et au Tchad pour des réfugiés africains, en Grèce, en Italie et maintenant en Espagne, en complément d'un respect absolu du droit d'asile en Europe et sur le territoire national, et on sait qu'il y a encore des progrès à faire, alors nous parlons d'autre chose. Et donc il faut vraiment veiller à ce que...
Mais vous voyez venir, Pascal Brice, ce sont des centres où on vous demandera, vous, l'OFPRA, j'imagine, j'imagine, pour voir qui est volontaire pour aller en France et dans quelles conditions.
Je vous rappelle qu'en 2015, lorsqu'il y a eu l'accord avec la Turquie, moi je me suis réjoui que l'Europe apporte un appui financier à la Turquie pour accueillir les réfugiés syriens. Mais l'OFPRA n'a pas participé à un dispositif dans les îles grecques qui visait à faire repartir non pas des déboutés du droit d'asile, mais des personnes qui relèveraient du droit d'asile. Donc nous sommes très clairs sur ce point. Et encore une fois, il faut avancer de cette manière-là, c'est le cadre qu'a fixé le président de la République, développer ses missions de protection dites de réinstallation vers l'Europe, les voies légales d'accès vers l'Europe depuis les lieux où se trouvent les demandeurs d'asile, parce que c'est éviter ces terribles traversées, mais c'est aussi faire respecter chaque jour un peu plus, au niveau européen de manière solidaire. Moi je pense que par exemple, à l'arrivée sur les lieux, il doit pouvoir y avoir un office européen indépendant comme les LOFPRA, qui instruisent les demandes d'asile, et de manière à ce qu'on respecte, c'est complémentaire. Il faut que ce soit complémentaire. S'il s'agit de dire c'est terminé en Europe, il n'y a plus de demandeurs d'asile et c'est à l'extérieur, alors c'est non. Mais si nous pouvons travailler de cette manière-là avec une réponse européenne sur le territoire européen en même temps que de l'ouverture de voies légales, alors je pense que c'est une voie qui mérite d'être explorée.
Philippe Debotton ?
Je pense que, enfin, moi il me semble qu'on pourrait très bien accueillir l'ensemble de ces réfugiés de manière tout à fait pertinente et efficace, et non pas avec une gestion absolument chaotique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, toute la politique européenne, à quelques exceptions près, et la politique française en particulier, ne vise qu'à une chose, c'est à expulser le plus grand nombre de migrants et de réfugiés ou de gens étrangers qui traversent, qui arrivent à percer le territoire malgré la fermeture des frontières. Ça, c'est un fait. Je veux dire, la fermeture des frontières, le harcèlement incessant qu'il y a à Paris ou à Calais. Moi, je vois à Menton, j'habite à Menton, à la frontière franco-italienne. Je vois ce qu'a fait le préfet des Alpes-Maritimes en toute illégalité. Je sais qu'à la police de la frontière, à la frontière franco-italienne, on rature les dates de naissance des mineurs. Ils disent 2002, on rature, on met 2000 pour les réexpulser. Donc l'État agit en toute illégalité, ne fait rien pour accepter ces réfugiés. Enfin, ne fait rien. C'est évident que l'OFPRA fait le maximum, mais l'OFPRA fait le maximum parce que l'OFPRA n'est pas politique. Et donc il s'agit surtout d'avoir des décisions et un courage politique. Ce gouvernement, comme ceux d'avant d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau, n'ont aucun courage politique. La noblesse d'un homme ou d'une femme politique, c'est d'avoir le courage d'aller contre certaines représentations et de ne pas entretenir la xénophobie, le racisme et la stigmatisation.
Philippe Debotton, est-ce qu'on, pardon d'employer ce terme, mais j'en ai pas d'autre là sous la main, est-ce qu'on doit trier une fois arrivé,
Je trouve ces termes, pardonnez-moi, mais oui, le terme je les emploie terrible. Trop souvent. Non, mais c'est pas possible, on peut pas dire ça. Vous le dis respectueusement, ces termes sont utilisés dans l'espace public, mais ça n'est... Pardon.
Alors, non, mais je vous en prie.
C'est comme l'appel d'air. Moi, je partage que il y a effectivement un fond de culture. Il faut arrêter avec ça. Hein. La peur de l'appel d'air, ce sont ces termes qui me font réagir, parce que depuis 5 ans, je les entends. Non, il faut... Chaque personne étant sur le territoire national, voulant demander l'asile, a droit à l'hébergement. Ça a progressé, mais encore trop de gens à la rue. Et la dame le disait à Nantes, j'y suis sensible puisque je suis nantais. Une prise en charge au titre de l'asile, vous savez que nous avons réduit les délais d'instruction, une politique d'intégration de ceux qui relèvent du droit d'asile. Je pense qu'il faut ouvrir une réflexion sur des situations humanitaires ne relevant pas du droit d'asile, et au-delà, c'est effectivement la reconduite. Mais il faut que le droit soit respecté dans toutes ses composantes. Le droit d'asile, ce qui relève d'autres formes de protection éventuellement, et puis le droit au séjour. Parce que je pense qu'il faut que les Français et les Européens cessent de tout mélanger, et puissent se dire, nous avons des valeurs, et le droit est respecté dans toutes ses composantes.
Ce que je voulais dire, et vous avez raison de me retirer. Non, je vous en prie, vous avez raison, parce que le terme, il est terriblement moche, et il a une connotation qui est terrible, mais le sens de la question, c'est faut-il faire la part entre ceux qui viennent pour telle raison, ceux qui viennent aussi pour des raisons économiques, ceux qui sont éligibles,
distinction. C'est une vue de l'esprit de distinguer les migrants économiques des migrants liés à des conflits, etc. Tout ça s'intrique, en fait. Quelqu'un qui part de son pays ne part pas pour le plaisir, ne fait pas du tourisme en Europe. C'est pas du benchmarking ou du shopping, comme dirait un certain personnage de l'État. Non. On a fait ce matin une conférence de presse sur les problèmes psychiques très sévères des réfugiés, des exilés. Est-ce qu'une personne, un psychologue du Centre Primo Levi a cité une personne, une jeune femme, très jeune femme, qui est partie de son pays. Pourquoi ? Parce qu'on voulait la forcer à se marier. Est-ce que cette femme est éligible comme migrante économique ou comme réfugiée ? Voilà. C'est tout. Donc c'est totalement aberrant de trier ces choses-là. Ces gens doivent être pris, doivent être, comme dit Monsieur Brice, doivent être recueillis. L'accueil est fondamental. Il faut qu'ils puissent se reposer. Il faut qu'il y ait des centres de répit, de repos, où ils puissent manger, s'alimenter. Et à partir de là, on étudie leur cas.
Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Pierre, on vous écoute.
Écoutez, je voulais juste amener deux, trois petites images sympathiques concernant la cohabitation avec des migrants. Donc moi, je suis dans un quartier à Laval où il y a des dizaines de nationalités. Le jour de l'Aïd, c'était plein de couleurs et avec un état d'esprit simplement ouvert, ben, on pouvait vivre ça comme un moment de grand bonheur. L'autre carte postale, ben, c'était dans un centre commercial où je voyais une femme qui visiblement ne maîtrisait pas le français et qui aidait une petite vieille à comprendre le fonctionnement des nouvelles balances pour opérer les fruits et légumes. Et puis la troisième image, ben, c'est ce dimanche, un match qui est organisé avec des réfugiés afghans pour un match de cricket avec Rennes. C'est le club ASPTT qui organise ça. Comme quoi, donc, c'est pas la peine d'agiter des peurs inutiles. Les cohabitations vont bon train dès lors que, comme le disait votre invité, les choses sont un peu organisées. On a 3 centres d'accueil d'orientation en Mayenne. Et visiblement, les choses vont bon train et la cohabitation se passe assez bien. Et puis d'autre part, il y a quand même un enjeu aménagement du territoire en France où un minimum d'intelligence voudrait qu'on accueille au mieux ces personnes pour aider à sauver des classes, des écoles, voire même à rouvrir des commerces dans des petits bourgs.
Merci pour votre intervention, Pierre. Pascal Brice, est-ce que effectivement, on avait tout à l'heure la représentante en France du HCR dans Un jour dans le monde qui disait l'une des clés, c'est bête et méchant, c'est de faire se rencontrer les gens en fait. Est-ce que c'est aussi basique que ça parfois en fait pour qu'on se retrouve avec une opinion publique qui est mieux encline et qui a moins peur quand elle voit arriver des Aquarius ou autre chose ou autre bateau?
Moi, je crois que votre auditeur mayennais rencontre une réalité de la société française qui est cette rencontre. Moi, je l'ai vu, nous en parlions avec le président de Médecins du Monde, à travers ces 10 000 personnes que nous avons convaincues de quitter Calais, accueillies un peu partout, y compris en Mayenne. Moi, je pense par exemple chez moi, un lieu où il y avait des réticences initiales. La rencontre fait que les choses se passent très bien. Mais elles se passent bien parce qu'elles sont organisées et maîtrisées. Et je voudrais vraiment insister sur ce point. Je crois que la sérénité du débat suppose que nous soyons lucides sur ce qu'est la société française et européenne, à la fois cette réalité qui est décrite là, et puis aussi des inquiétudes et des doutes. Et je suis pour ma part convaincu, mais c'est aussi la raison d'être de l'OFPRA, que dans ce contexte-là, il faut que nous puissions cesser les confusions. Je crois pour ma part, mais cela est discutable, que nous sommes dans le champ de la dignité humaine, et Médecins du Monde le sait mieux que quiconque. Et donc dans le champ du droit. Il y a d'abord le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est quelque chose qui racine au plus profond de notre histoire. Et qui doit être absolument respecté. Et ça a été dit par le président de Médecins du Monde tout à l'heure, il y a bien des lieux, notamment à Calais, où nous avons encore des progrès à faire. Et puis, au-delà, il y a sans doute à inventer, encore une fois, des droits pour celles et ceux qui sont en détresse humanitaire, mais qui ne relèvent pas du droit d'asile parce que ils n'ont pas de crainte dans leur pays d'origine. Parce que le droit d'asile, c'est un droit qui est mis en œuvre par l'OFPRA sous le contrôle d'un juge. Puis il y a aussi la question des migrations économiques. Et puis au-delà, c'est probablement l'absence de droit au séjour. Donc je pense, du point de vue de l'OFPRA, notre impératif, c'est de faire respecter pleinement le droit d'asile et de progresser sans cesse dans ce sens, et qu'au-delà, on puisse être dans éventuellement la création de catégories de droits et dans le respect absolu du droit, parce que sinon, je crains que la confusion n'emporte tout.
Mais Philippe de Botton, moi je voudrais bien qu'on parle aussi aux gens qui disent non. En fait, à ceux qui ne veulent pas, à ceux qui ont peur, à ceux qui s'imaginent, je ne sais pas de quoi ils ont peur réellement, de ce qui pourrait se passer, à ceux qui craignent ce fameux appel d'air, de terme que Pascal Brice n'aime pas, à ces gens-là, parce qu'ils existent et qu'ils sont nombreux et qu'ils sont même majoritaires aujourd'hui, selon en tout cas un dernier sondage Opinionway, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Parce qu'à un moment...
Je ne suis pas sûr qu'ils soient majoritaires, parce qu'il y a quand même une solidarité citoyenne extrêmement... importante dans toute la France, et d'ailleurs à ce point de vue-là, d'ailleurs, ça serait bien que le gouvernement abolisse le délit de solidarité.
Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un clivage générationnel qui était plutôt intéressant à lire. En fait, les plus de 65 ans étaient plus effrayés que les autres. Mais n'empêche que ça existe.
Ce que je sais surtout, c'est que dans l'opinion publique, il y a, si vous voulez, une fraction de l'opinion publique qui est très pour, entre guillemets, les migrants, qui est très solidaire et qui est très active. Il y a une fraction relativement égale de 10, probablement 10-15% de gens qui sont véritablement contre, qui ont des idées vraiment très dures. Et je pense qu'entre les deux, il y a une proportion importante de gens qui sont un peu, plus ou moins bien informés, qui ont effectivement des doutes. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'intégrer 30 000, 40 000, 100 000 personnes étrangères en un an, deux ans. Bien sûr que c'est compliqué, mais ça a déjà été fait. Et donc, je pense que le meilleur moyen de les intégrer, c'est un peu ce qu'a suggéré Monsieur Brice par rapport à ce qui s'est passé après Calais, qu'on a laissé quand même pourrir pendant un an et demi. On aurait peut-être pu le faire plus tôt. C'est que je pense que si vous voulez, si vous répartissez, je sais pas moi, 50 000 migrants, il y a 36 000 communes en France. Ça fait en gros deux migrants, donc tout ça, bien sûr, c'est un peu théorique, mais ça fait deux migrants par commune. Où est le problème? Évidemment que ça se passe bien. Évidemment que ça se passera bien. Évidemment, si vous faites... Moi, je suis médecin. Mmh. C'est évident que je me suis beaucoup occupé d'usage de drogue dans les années 90, etc. Le problème des usagers de drogue, par exemple, c'est effectivement, si vous faites venir dans une salle d'attente 30 usagers de drogue avec leur chien, etc., ça va poser des problèmes. Si, par contre, vous répartissez avec tous les médecins généralistes un usager de drogue ou deux usagers de drogue, il n'y aura aucun souci. Mais, c'est pareil. Donc, si vous arrivez, s'il y a un effort pédagogique qui est fait, si les autorités font le travail, si évidemment il n'y a pas des gens qui utilisent, qui instrumentalisent les migrants, comme Monsieur Ciotti par exemple dans mon département où j'habite, qui vraiment attise la haine, stigmatise les étrangers, c'est une honte. Il faut savoir quand même.
Mais donc visiblement ça marche auprès des gens. Vous dites
non, je suis pas sûr que ça marche.
Et alors pardon de le dire comme ça, mais les politiques sont cyniques. Hein, et donc si ça ne posait pas de problème et si majoritairement les Français étaient tous solidaires, ils seraient là.
Non, je suis pas sûr. Je répète aussi, c'est le courage d'un politique d'aller contre, enfin, éventuellement l'opinion publique. Je veux dire, on a aboli la peine de mort et la majorité des gens étaient pour la peine de mort. Donc, etc. Enfin, l'avortement idem, etc. Le Pax, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. À un moment donné, il faut avoir le courage de ces valeurs dont parle Monsieur Brice. Et je pense que ces valeurs sont vraiment bafouées par beaucoup de gens ici, par beaucoup d'élus, malheureusement.
Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue, Pascal, on vous écoute.
Merci pour vos émissions. Je suis donc Pascal, je suis conseillère municipale dans une petite ville à côté de Rennes, à Verne-sur-Sèche. Et en 2016, nous avons décidé, en conseil municipal, de mettre le drapeau européen en berne, en protestation contre la politique européenne de gestion des migrants et des réfugiés. Et nous avons estimé, et j'estime aussi à titre personnel... Donc tout ça s'est fait à un retour de Calais. J'étais allée voir ma fille qui faisait un stage à Calais. Et j'ai été profondément choquée. J'en ai fait part au conseil municipal et nous avons pris ces décisions. Et nous avons aussi mené une réflexion sur la responsabilité que les pays occidentaux ont et doivent assumer vis-à-vis des pays en conflit et des pays économiquement pauvres que nous avons quand même. Pays occidentaux exploités et voilà, et puis nous continuons à nous enrichir sur des ventes d'armes et sur des choses comme ça et je suis très fière de ma commune qui a mis ce drapeau européen en berne et voilà.
Et merci Pascal pour ce témoignage. Pascal Brice, il y en a beaucoup des témoignages comme ceux de Pascal et on en parlait à l'instant avec l'auditeur précédent. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que une initiative et puis une autre, est-ce que ça a plus de poids qu'un élan qui serait un véritable élan, qui serait un élan en France ou même en Europe en fait?
Moi je suis très admiratif de ce que font les maires. Je le vois un peu partout. On parlait des personnes qui ont accepté de quitter Calais pour demander l'asile en France, que l'OFPRA a très très largement protégé. Des maires courageux un peu partout. Moi je respecte et je comprends très bien ce que dit cette dame, même si je sais que c'est la même chose. Moi les drapeaux, j'ai envie de les relever et puis de les porter, parce que même quand c'est dur, et plus c'est dur, et puis il faut le faire, et je sais qu'on pense tous cela. Je crois qu'il faut être lucide. Je crois qu'il faut être lucide sur le fait que la société française comme européenne est traversée de ses crispations, de ses enthousiasmes à accueillir, de ses envies d'accueillir, en même temps de ses peurs, de ses inquiétudes. Que dans cela, pas contre cela, dans cela, il faut respecter les valeurs, pour l'OFPRA, le droit d'asile, organiser, maîtriser les choses. Chaque fois que les choses se passent auprès des hommes et des femmes de ce pays, ça se passe très bien. J'ai jamais vu de problème nulle part. Mais il faut pas non plus nier que les gens se posent des questions. Et donc il faut organiser cela. On peut pas laisser les choses. Hélas, les pays qui l'ont fait en payent le prix. Nous en payons tous le prix collectivement. Et donc, ce sont des solutions européennes maintenant qui s'imposent. Vous savez que je défends beaucoup, mais derrière le président de la République, l'idée d'un OFPRA européen, qui soit aussi indépendant que les LOFPRA, c'est autant l'aimabilité de le rappeler, parce que pour moi, c'est la réponse, c'est l'une des réponses, et c'est une réponse européenne, parce que le poison est puissant. Hein, donc, il faut lutter contre ce poison.
Evelyne, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je tenais à témoigner car je n'ai jamais entendu cette affirmation-là. Je travaille au niveau de l'emploi et je n'ai jamais entendu dire que les migrants étaient un potentiel, un public humain avec des compétences. Je disais que on a beaucoup d'entreprises, je fais le constat que beaucoup d'entreprises recherchent des compétences et en face, dans ma fonction au quotidien, je n'ai pas le public qui détient cette compétence et on n'arrive pas à faire le mariage et on entend de plus en plus, on n'a pas les compétences. Je pense que si ce public était accueilli, bénéficiait de formation en français intensive et peut-être de formation d'adaptation de leurs compétences au marché français, il contribuerait à notre système économique en cotisant pour les retraites futures, pour la sécurité sociale, etc. Et je n'entends jamais parler du public migrant comme un public qui a des compétences et qui peut apporter à notre pays.
Evelyne, merci. Philippe de Botton, est-ce qu'on a réussi à faire ça? Les gens qui sont installés chez nous, lorsqu'ils ont été installés d'ailleurs dans de bonnes conditions après leurs accueils, tout ce qu'on avait dit effectivement au moment de l'entrée d'un certain nombre d'entre eux, est-ce qu'on sait aller déceler les compétences? Est-ce qu'on sait aller les chercher? Est-ce que les entreprises autour, dans les villes et les villages dans lesquels ces migrants peuvent être installés, sont allés les chercher? Est-ce que c'est pas le grand manque, ça, finalement?
Ah non, mais la richesse économique des migrants est évidente. C'est-à-dire que, quel que soit leur pays d'origine, c'est-à-dire que lorsque, bon là, il y a eu, avec la crise irako-syrienne, il y a eu un nombre de Syriens extrêmement important qui est venu, qui sont tous diplômés et tous très compétents dans leur domaine. Bon, les Africains, c'est dans d'autres domaines, mais quoique moi, à la frontière italienne, j'ai parlé avec des jeunes Soudanais, des jeunes Érythréens qui étaient en faculté, enfin, etc. Donc, il y a vraiment une vraie richesse économique. D'ailleurs, et ça rejoint le fait que, au-delà de l'instrumentalisation politique, simplement, si on est simplement pragmatique, évidemment qu'il faut utiliser, entre guillemets, ces personnes. C'est une richesse et c'est un investissement, si je puis dire.
Mais Pascal Brice, est-ce qu'on fait... Ça a été le cas en Allemagne pendant une période, et très honnêtement, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. On faisait rentrer des chefs d'entreprise à l'intérieur des centres pour migrants. Quelles sont les compétences de chacun, voir un petit peu. Est-ce qu'on a fait ça, nous? Est-ce qu'on est capable de faire ça, nous? Est-ce qu'on est en phase de faire ça, nous?
C'est l'un des défis de la politique gouvernementale, notamment la question de l'intégration des réfugiés. J'en avais fait le constat avec les équipes de l'OFPRA en 2015 à Calais ou dans les campements parisiens, nous retrouvions des personnes protégées par l'OFPRA qui étaient à la rue. Donc il y a une vraie question d'apprentissage de la langue, de formation professionnelle, d'accès à l'emploi, d'accès au logement. Et c'est un élément important, mais moi je voudrais souligner, j'ai le souvenir d'une de mes premières rencontres avec 200 à 300 jeunes à Calais aux alentours de 2014. J'avais pris mes fonctions depuis peu et j'avais été très interpellé par leurs propos qui me disaient, vous savez, nous, on manque pas de courage. Hein. Au vu de ce qu'on a vécu, on peut être très utile à votre pays. Et ça, j'en suis convaincu. Et donc, l'une des questions qui est posée, c'est celle de la politique d'intégration. Il y a un délégué interministériel qui travaille sur ce plan. Notamment, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui, lorsque l'OFPRA protège quelqu'un, de bilan de compétences. Et moi, j'ai vu des fédérations patronales qui disposaient de formations qualifiantes et qui ne trouvaient pas, entre guillemets, de réfugiés qui auraient pu en bénéficier, ce qui est totalement aberrant. Nous protégeons à l'OFPRA les dernières 45 000 personnes. Nous sommes pas loin d'une personne par commune, comme l'évoquait le président de Botton tout à l'heure. Donc oui, c'est un enjeu majeur que l'intégration, notamment par la formation professionnelle, parce que là, il y a une force considérable.
Parce que comment ça se passe très concrètement? Vous avez un garçon en face de vous qui dit, moi j'étais informaticien par exemple, voilà, j'avais telle sorte de diplôme, alors qu'il n'a évidemment pas chez lui, mais une fois que vous avez cette information, que vous le savez, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous pouvez en faire
aujourd'hui,
en fait, pour lui?
Assez largement, alors il faut bien voir que l'OFPRA, redisons-le, hein, a en charge la protection des réfugiés, donc il y a les étrangers qui ne relèvent pas du droit d'asile, par ailleurs il y a d'autres migrations légales, et donc c'est notamment l'OFI, qui est un autre établissement public, qui a en charge la politique d'intégration, mais c'est un enjeu aujourd'hui sous le contrôle du président de Médecins du Monde réel, c'est-à-dire qu'il y a un vrai déficit, notamment sur la question du bilan de compétences, alors que je confirme ce que disait Monsieur de Botton, vous avez là des compétences importantes dans de très nombreux domaines.
Bonsoir Julien.
Bonsoir.
On vous écoute Julien, allez-y.
Alors j'avais juste une remarque. Alors d'abord merci de me prendre, je suis très content parce que j'écoute votre émission tous les soirs. J'avais une remarque parce que j'entends pas beaucoup dans le débat de ce soir. Entre guillemets, si je puis me permettre, c'est peut-être pas le bon terme, mais je trouve que du coup c'est un peu orienté, et je me dis, est-ce qu'il y a une place, c'est pas forcément mon cas, mais est-ce qu'il y a une place au fait de penser que non, on n'est pas forcément pour l'accueil du migrant systématique, qu'on peut, oui, être pour le fait de distinguer patrié, j'ai bien entendu tout à l'heure votre invité, sur le fait de distinguer peut-être que certains migrants oui, certains migrants non, dans quelle quantité, et est-ce qu'on peut comprendre aussi, sans forcément juger, poser un jugement moral, en fait, sur le fait que certaines personnes ont peut-être juste peur, parce que économiquement, aujourd'hui, en France, on n'est pas non plus, c'est pas la panacée. Je pense qu'on serait dans les années 50-60, on n'aurait peut-être pas tant de problèmes que ça. Il n'y a pas eu de problème, du moins, enfin, beaucoup moins, il me semble, avec les populations maghrébines qui sont arrivées dans cette période-là. Est-ce qu'on peut comprendre aussi, est-ce qu'on peut accepter aussi que certaines personnes dans la population, sans être extrêmes, sans être type M. Souti, qui effectivement est abject, mais est-ce qu'on peut comprendre que certaines personnes, en fait, raisonnent comme ça, tiennent ces propos-là, et n'aient pas envie de voir de migrants? C'est un peu ma question.
Mais vous avez bien fait de la poser. Il y a une place, évidemment, pour ces questions-là aussi. Julien, merci beaucoup. Et c'est un peu ce qu'on essayait de dire en début d'émission. Pascal Brice, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qui nous expliquent, et on peut les entendre, pour moi, c'est compliqué économiquement, donc rajouter des migrants là-dessus, mais comment ça va être possible? Comment on va faire pour les accueillir? Et j'ai peur du terrorisme. On les entend, ces remarques-là, et on est obligé d'en parler. On est obligé à un moment de leur répondre à ces gens.
Mais je crois avoir dit qu'à mes yeux, cela fait partie de la réalité sociale du pays et de l'Europe. Moi, je n'ai évidemment, qui serais-je pour avoir un jugement moral sur quelqu'un qui verrait arriver des demandeurs d'asile dans son quartier ou dans son village et qui se poserait des questions parce qu'il a vu ou elle a vu des images à Calais ou je ne sais où inquiétantes. Moi, je n'ai pas de jugement de moral. J'ai un jugement sur celles et ceux qui instrumentalisent à des fins politiques. Ça, c'est une autre affaire. Mais celles et ceux qui sont dans cette réalité sociale-là, notamment parce qu'ils sont fragilisés, ou pas d'ailleurs, parce que ces réflexions-là existent partout dans la société française.
Pas forcément d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est intéressant.
Ce que l'on constate, c'est que dès lors, encore une fois, qu'on est dans l'organisation et la maîtrise des choses, dans le respect du droit, eh bien, les choses se passent très bien. C'est-à-dire que là où on s'interroge, on s'inquiète. Moi, je vous le dis, à côté de chez moi, dans une station balnéaire, en Loire-Atlantique, il y a eu à l'époque des premières arrivées de Calais, des réactions assez vives, de doutes, d'inquiétudes, des tentatives d'instrumentalisation, mais des doutes, des inquiétudes. Et puis, moi, je suis retourné 3 mois après. Il y avait 400 habitants qui étaient là et qui organisaient des sorties, du football, etc. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Mais il faut que ce soit organisé, maîtrisé et respectueux du droit. Sinon, on raconte des histoires aux gens.
Et c'était le sens, effectivement, de certains des témoignages tout à l'heure, Philippe de Botton, là-dessus, sur la réponse qu'on peut donner aux gens.
Non, mais bien sûr, c'est évident qu'on n'a pas à avoir de jugement, on n'est pas au-dessus de qui que ce soit, etc. Évidemment que je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient réticents ou du moins hésitants et qui aient une certaine peur, une certaine appréhension, c'est évident. Moi, je pense que ce que j'ai dit, enfin, je pense qu'il faut un effort pédagogique, il faut un effort d'information, il faut que les gens les rencontrent. Voilà, le problème, c'est que l'image qu'on en donne, du moins dans la plupart des médias, et dans la plupart des discours, sont des représentations extrêmement, extrêmement négatives, extrêmement souvent fausses. Et donc voilà. Et donc les gens ont peur, c'est évident. Mais à mon avis, si vous faites simplement, Monsieur Brice, c'est tout à fait juste. Si vous faites simplement dans une ville ou dans un village rencontrer ces personnes-là, vous rendrez compte que je pense que ça détruira beaucoup de représentations. Ceci dit, s'attaquer aux représentations, c'est jamais simple. Et donc ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que quand vous voyez à la frontière franco-italienne ou ici à Paris, etc., des armadas de cars policiers, c'est vrai que ça fait peur. Moi, je passe la frontière régulièrement pour aller prendre mon café en Italie. Je veux dire, ça fait 3 ans que j'ai des policiers qui chaque fois me demandent d'ouvrir le coffre, etc. À un moment donné, c'est quand même assez brutal. Et je peux comprendre que des gens soient un peu impressionné. Donc il faut leur parler, il faut pas du tout les négliger, bien au contraire.
Les réticences européennes, elles sont contagieuses, Pascal Brice. Quand on entend, parce qu'on entend les Hongrois, on entend les Polonais, c'est une chose. Quand on entend les Italiens, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, comme le dit Philippe de Botton, ce sont nos voisins, ça se passe à côté. Quand on est frontalier, on va boire un café facilement en Italie, c'est le pays fondateur de l'Europe. Est-ce que votre crainte, c'est pas ça? Ça déclenche quelque chose, ce refus italien, auprès de nos pays à nous, en fait?
C'est tout à fait mon inquiétude. Vous parlez de contagion, je parlais de poison. Et je redis que les migrants ou les réfugiés sont bien involontairement les catalyseurs d'une crise européenne, d'une interrogation sociale profonde qui les dépasse et dont ils sont les victimes. Et le constat que je fais, c'est que si nous ne sommes pas capables d'organiser les choses dans le strict respect du droit, en veillant à ne pas aller vers la pente naturelle qui serait notamment de dire bon, plus personne en Europe et puis on gère ça en Libye. Vous savez, moi j'étais jeune diplomate quand monsieur Blair, monsieur Berlusconi et monsieur Aznar ont proposé que les demandes d'asile soient gérées exclusivement dans la Libye de Kadhafi. Le président Chirac a dit non, j'étais jeune diplomate. Ça m'a servi pour longtemps. Donc moi j'en suis toujours là. Donc il faut une réponse organisée et maîtrisée, parce que si on est dans la surenchère à penser qu'on peut accueillir tout le monde n'importe quand et dans n'importe quelles conditions, alors on dessert la cause. On parlait de la Suède, on parlait de l'Allemagne. Je vois l'effet boomerang. Soyons respectueux de nos valeurs, respectueux du droit, organisons, maîtrisons l'accueil. Et là, les choses doivent pouvoir reprendre. Et c'est à la fois notre vitalité sociale et l'unité de l'Europe, quelque chose auquel je suis personnellement très attaché, qui sont aujourd'hui en cause.
Et vis-à-vis de nos politiques, si Angela Merkel perd son poste, on dira au bout du bout que si Angela Merkel a perdu son poste, c'est parce qu'elle a accueilli des migrants. Donc effectivement, il y a toujours danger à aller trop vite dans l'analyse. Vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe?
Oui, non, je voulais simplement ajouter que pour l'Italie, le problème c'est que l'Italie, entre guillemets, paye l'absence de politique européenne sur la question migratoire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les Italiens... ont quand même accueilli un nombre important de réfugiés. Ils l'ont fait d'ailleurs avec beaucoup de... Nous avons un programme en Calabre où donc ils ont été reçus justement dans les villages, etc. Ils ont fait un travail remarquable, mais c'est évident que ça a provoqué des tensions, etc. Et donc les politiques ont instrumentalisé. Voilà, quand vous habitez Vintimille et que vous avez régulièrement 600, 700 migrants, c'est un petit Calais, Vintimille, c'est un petit Calais. À Calais, il y avait 10 000 personnes, à Vintimille, il y en a 1 000. Et ben voilà, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ça attise un peu les peurs.
Il nous reste un peu de temps, c'est pour vous, Carlos, bonsoir.
Oui, bonsoir, Carlos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Allez-y.
Je vous appelle parce que j'ai un commentaire par rapport justement au fait qu'il y a de la souffrance déjà dans le fait de partir. Je vous précise, je suis franco-mexicain, donc une partie mexicaine est très touchée aujourd'hui par ce qui se passe à la frontière avec les États-Unis.
Ouais.
Donc ça vous permet de comprendre. Mais j'entends bien le discours d'aujourd'hui, et puis c'est quand même accès occidentalo-centré. C'est-à-dire que la toute première souffrance, c'est les personnes qui doivent partir. Aujourd'hui, à tour de reportage, je vois que la Chine, par exemple, s'implique beaucoup, est présente économiquement, installe des entreprises. Bon, effectivement, c'est des business, c'est pas humanitaire à 100%, mais ça crée de la richesse sur place, ça crée des emplois. Vous parliez de l'électronicien ou de l'informaticien qui était sur place tout à l'heure, bah, il soit employé dans des boîtes comme ça. Donc, je me demande aujourd'hui clairement pourquoi l'Europe n'arrive pas à faire une armée humanitaire. J'ai entendu sur votre antenne que justement l'Europe est en train de s'organiser en point de vue armée pour avoir une armée commune. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une armée commune européenne pour envahir l'Afrique avec...
l'envahir économiquement, vous voulez dire.
De l'éducation et de la santé, mais des entreprises, du développement économique pur et dur, qu'on aille là-bas et qu'on les aide sur place.
C'est pas
un sentiment de rejet. De mon profil, je ne pourrais jamais l'avoir. C'est important.
Pardon de vous presser, Carlos, mais le temps est quasiment fini. Merci beaucoup pour cette question. Une réponse, Pascal Brice, rapidement pour Carlos. Est-ce que le développement est la clé? C'est ça qui me dit
entre... Je retiens surtout de ce que dit Carlos. On sent que c'est très profond. La souffrance de l'exil. Je peux vous dire que pour nous, à l'OFPRA, c'est tous les jours, celles et ceux que nous entendons. Et ça, que jamais personne ne le perde de vue.
Allez, c'en est fini pour le téléphone sonne de ce soir. Merci à tous pour vos questions et portez-vous bien.